Ésaïe 6. Un célèbre passage de la parole, un de mes passages favoris. Pourquoi ? Parce que on entrevoit le trône de Dieu. J'aime à dire à ceux qui aiment annoncer la parole, à prêcher, à faire des études bibliques, le passage le plus important de la Bible, c'est celui qui est devant vous. Pourquoi ? Parce que Dieu est capable d'organiser les circonstances pour que aujourd'hui, 17 mai 2009, nous ayons ce passage devant nos yeux. Dieu nous parle par sa parole et nous allons la lire. Chapitre 1, verset 1 du chapitre 6, page 674, si vous cherchez dans la Bible à la colombe, première partie. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi !» Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va, tu diras à ce peuple « Écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. » Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains, et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Célèbre passage donc, où le prophète Ésaïe décrit son appel, sa vocation. On a l'idée que le mot vocation, c'est un mot très, très religieux. Ça veut simplement dire être appelé. C'est l'appel. C'est un mot plus courant qui fait que la vocation, on pense que c'est pour les prêtres, pour les religieuses. La vocation, Dieu nous appelle tous. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. On a vu dans le premier verset de la prophétie d'Ésaïe, du chapitre 1, que Ésaïe avait servi sous plusieurs rois. Il a servi au temps d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz, d'Ézéchias, qui étaient des rois de Juda. Il y avait, vous le savez, des bons et des mauvais rois. Le roi Ozias, il en est question dans 2 Chroniques 26, dans 2 Rois 15, et on va peut-être regarder ensemble 2 Rois 15 et lire les 7 premiers versets. C'est page 392 dans la Bible à la Colombe. Le roi Ozias, en anglais c'est Uzziah, il est aussi connu sous le nom de Azaria. Donc ne vous laissez pas surprendre si des fois on parle de Azaria. Il a eu un très long règne, ce roi. Il a régné pendant 52 ans. Lisons à partir du verset 1 du chapitre 15 de 2 Rois. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, régna comme roi de Juda, c'est Ozias. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yekoliaou de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point comme l'avait fait son père Amatsia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort et habita dans une maison isolée. Jotham, fils du roi, était régent de la maison et gouvernait le peuple du pays. Le reste des actes d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela a été écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Azaria se coucha avec ses pères et on l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David. Son fils Jotham régna à sa place. Et juste quelques versets dans 2 Chroniques 26. Donc c'est les livres à votre droite. Page 462. Ozias régna longtemps et il affermit la place de Juda. Verset 5, il est dit qu'il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie, le prophète. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Ça, c'est un principe de vie. Même si nous ne sommes pas rois d'Israël ou de Juda, tant que nous recherchons l'Éternel, tant que nous sommes en marche vers lui, lorsque nous avons soif de lui, lorsque nous essayons de le découvrir, de l'aimer, de le servir, il nous donne du succès. Pas nécessairement matériellement, mais il y a cette vie qui est riche, même si elle est difficile, elle est abondante. Tant qu'il a fait ça, Dieu lui a donné du succès qui s'est matérialisé par des victoires contre les Philistins. Il sortit pour combattre les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbaal, contre les Maonites. Il a eu plein de victoires et c'était un ingénieur au sens où il a bâti des tours, il a fortifié. Il a bâti des forts, il a creusé des citernes, il faisait du génie civil. Il avait des combattants, il avait de grandes victoires. Verset 15, il fit faire à Jérusalem des machines conçues par un ingénieur pour être placées sur les tours et sur les angles afin de lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. On voit un homme qui sert Dieu, qui cherche des ressources, qui trouve des personnes pour l'aider et le peuple est béni. Mais verset 16, il est dit « Lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. » C'est vrai que le succès peut nous mener à la chute, à notre perte. Parce qu'il est facile, lorsqu'on fait l'expérience du succès, de croire que ce succès, il m'est dû. C'est parce que j'ai des grandes qualités que l'Église grandit, c'est parce que j'ai des grandes qualités que l'Évangile est annoncé dans le pays. Non, l'humilité, on ne doit jamais s'en départir, sinon Dieu intervient. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu et il a fait une chose terrible, c'est que comme il était le roi et qu'il régnait sur ses gens, il s'est dit « Je peux entrer dans le temple et je vais brûler des parfums sur l'autel des parfums », ce qui était une tâche réservée aux prêtres, une tâche qui demandait d'avoir été appelé à ce ministère. Le sacrificateur, le reste des versets cursifs, nous explique que les sacrificateurs s'opposèrent au roi et en lui rappelant « Ce n'est pas à toi de brûler des parfums à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Sors du sanctuaire car tu es infidèle et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. » Il y a un phénomène intéressant. Dans la publicité, on prend quelqu'un qui est bon dans un domaine et puis on lui fait parler d'un domaine dans lequel il ne connaît absolument rien. On aime bien faire appel à... C'est Chabal, je crois, le joueur de rugby. Ou Zidane, qui sont des sacrés champions dans leur sport ou qui ont été des champions dans leur foot ou dans le rugby. Et puis, on leur fait vendre du parfum. Bon, à la limite, je vois bien le rapport entre la transpiration de ces joueurs et le parfum dont ils ont besoin. Mais on va prendre les mêmes Zidane, les mêmes Chabal pour vous parler de la meilleure banque. Qu'est-ce qu'ils connaissent au monde bancaire ? Et il y a ce transfert de compétences d'un domaine dans un autre. Et là, inconsciemment, c'est ce que fait Ozias. Il se dit, je suis le roi, je peux tout faire. Non, il y a des choses qui sont pas pour nous. Et lorsqu'il fait cela, il se dépasse, il démérite, il n'est plus dans son rôle. Et ça montre plutôt un grand manque de respect pour Dieu. Ça montre qu'en fait, il se croit le big boss. Et lorsque nous faisons ça, Dieu sait nous rappeler à l'ordre. Là, devant la réaction des sacrificateurs qui savent qu'il va sans doute payer gravement pour ce péché, il n'a rien à faire à prendre les brûloirs à parfum. Et verset 19, il dit que la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Il se met en colère dans le temple de Dieu, parce qu'on lui dit qu'il n'a rien à faire à faire ce service. Et la lèpre éclate sur son front en la présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Et il avait la lèpre sur son visage. Et il est demeuré lépreux, verset 21, jusqu'à sa mort. Il habita dans une maison isolée. La lèpre, vous le savez, est une maladie très contagieuse qui, malheureusement, sévit encore dans notre monde aujourd'hui, alors que le traitement est disponible, peu coûteux. On a des fois, il y a un mouvement chrétien évangélique qui lutte contre la lèpre et la prochaine fois que nous recevrons des sollicitations, je vous invite à y répondre. Et on disait de lui, il est lépreux. L'année de la mort du roi Ozias, c'était en 740 avant Jésus-Christ, avant notre ère. L'année où Ozias est mort, Ésaïe dit, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Alors, on peut penser que c'est simplement une façon de dater les choses, Et ça peut l'être, mais il y a une leçon pour nous aussi, le fait que tant que Ozias était vivant, Ésaïe n'avait pas encore vraiment vu Dieu. Ozias était, jusqu'à ce qu'il commette ce grave péché, qu'il soit frappé par la lèpre, était un roi qui avait fait beaucoup de bien, on l'a vu rapidement. Et les gens disaient « Vive Ozias !» Ah, le roi Ozias, le bon roi Ozias, ou Azaria, selon les cas. Et les gens avaient leur regard sur le roi. Et peut-être que dans votre vie, vous avez aussi des personnes, vous dites « Ah, tel grand prédicateur, Billy Graham, ah, c'est formidable !» Et vous fixez vos yeux sur lui. Pour les mouvements des églises de Calvarie, il y a Pastor Chuck. Ah, quel homme! Et c'est vrai qu'il est, c'est un homme remarquable, que le Seigneur a grandement utilisé, mais il a 82 ans, je crois, et il n'est pas éternel. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie, un jeune homme, une jeune femme, qui est l'objet de vos pensées. Un artiste, une vedette, une star. Ah, Brad Pitt. Et ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être vos enfants. Vous vivez pour eux, vous ne voyez qu'eux. Et des fois, le Seigneur doit vous secouer par des circonstances pour qu'enfin vous dites « Attends, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ?» On parle de personnes, ça peut être aussi des choses, ça peut être la villa que vous êtes en train de construire, les soucis pour la piscine que vous allez installer là. Oh, on fera des baptêmes dans la piscine, mais vous mettez toute votre énergie, toutes vos pensées. Ça peut être le nouvel ordinateur que vous voulez acheter. Moi, je me souviens, le premier ordinateur que j'ai acheté, le Seigneur m'a repris parce que je passais plus de temps à lire les comparatifs dans les magazines spécialisés qu'à lire ma Bible. À l'époque, c'était des 386. Vous n'avez pas connu ça, tant mieux pour vous. Il y avait pas de photos, il y avait pas de couleurs, c'était juste des caractères en DOS qui apparaissaient sur l'écran. Mais l'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe a cette vision. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Une vision majestueuse de Dieu sur son trône. Un trône très élevé. Pas qui. Le respect, la position élevée, et il y a quelqu'un sur le trône. Ozias est mort, le trône humain a été déserté. On a vu que c'était son fils Yotam, mais Yotam, il n'était pas encore connu, il y avait ce malaise. Il y a un trône vide sur terre, mais il y a un trône qui est toujours rempli ou sur lequel quelqu'un siège tout le temps, depuis toujours et pour l'éternité. Ça, c'est un message qu'on doit prononcer autour de nous. Il y a un roi qui règne éternellement. Un roi qui, de plus, nous aime. Pour les athées, il n'y a pas de trône dans l'univers. Ou alors s'il y a un trône, chacun a son trône et chacun est assis sur son petit trône. Et ça, c'est l'humanisme. L'homme est la fin, la mesure de toute chose. L'humanisme à la peau dure, c'est encore la religion officielle de notre pays. Malgré deux guerres mondiales, malgré des crises économiques sans pareil, malgré des catastrophes, malgré... Il y a un roi sur le trône dans les cieux. Amen. C'est un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent le temple. D'autres versions traduisent ça par la traîne de sa robe. Qui remplit le temple. Lorsqu'on pense à une traîne, on pense à la traîne d'une robe de mariée. Mais c'est une sacrée traîne. Elle remplit le temple. Quand je pense aux traînes que j'ai pu voir, en vrai, en général, elles sont assez longues pour que deux petits chérubins portent la traîne à l'arrière. Une des traînes les plus longues dont je me souviens, c'est la traîne de la princesse Diana. Elle avait une sacrée traîne. Là, cette traîne, elle remplit le temple. La traîne, c'est un signe de majesté. Et je pensais que c'est un peu comme quand un bateau passe, si c'est un grand bateau, son sillage fait des vagues. Son sillage est remarquable, est remarqué. Plusieurs années, quand les NGV partaient en Corse, ils faisaient des vagues. Il y a même des gens qui se sont noyés à cause des vagues du NGV, du bateau important. Mais la traduction de, c'est vraiment pas la traîne. Ça, c'est une image pour nous parler à nous au XXe ou XXIe siècle. Le vrai terme, c'est le terme de pan ou d'ourlet de la robe. Et vous vous souvenez que Les prêtres avaient des robes, le grand prêtre avait une robe avec des ourlets. Sur ces ourlets, il y avait des clochettes et des grenades. Les clochettes, on a dit en son temps que c'était quelque chose de visible, c'était une manifestation que de l'esprit, des dons, on l'entendait. Et puis il y avait les grenades qui étaient comme un fruit qui est rempli de graines. Et donc les grenades, ça symbolise le fruit de l'esprit. On a dit que sur ce pan, c'était comme s'il y avait les dons et les fruits de l'esprit qui étaient symbolisés par ces clochettes et ces petites grenades. Mais c'était un symbole d'autorité. Vous vous souvenez, lorsque Saül était parti dans la grotte, David a coupé un morceau du pan de son ourlet, de sa robe. Et quand on lit ça, on pense que, ben oui, il lui a pris un petit morceau pour lui prouver qu'il aurait pu faire davantage. En fait, il avait déjà attaqué son autorité. Il avait remis en cause son autorité en prenant une part de l'ourlet de sa robe. Et puis, vous vous souvenez, cette femme qui était atteinte d'une maladie depuis 12 ans et qui se disait, si seulement je peux toucher l'ourlet de sa robe, je serai guérie. L'ourlet, c'est un symbole de l'autorité, de la puissance. Et là, les pans de sa robe remplissent le temple. Le mot qui est traduit par Seigneur, c'est le mot Adonai. Plus loin, l'Éternel des armées, c'est le mot Yahweh. C'est le mot symbolisé par le tétragramme des quatre lettres. Que l'on lit Yahweh, mais il est intéressant là aussi, et on va le voir dans un autre verset, mais si vous regardez, qui est ce Seigneur qui est assis sur le trône très élevé? On va parler mercredi soir du trône de Dieu, tel que Jean le décrit dans l'Apocalypse, et on voit que il y a Dieu le Père. Il y a aussi Dieu le Fils. L'agneau est aussi sur le trône. Mais si vous regardez, et allez souligner ça dans Jean 12, On va lire les versets 37 à 41. Jésus a fait des tas de miracles. Les gens nous disent aujourd'hui, si seulement je voyais des miracles, je croirais. Alors qu'en fait, lorsque l'on regarde le récit biblique, on s'aperçoit que ce n'est pas les miracles qui amènent à la foi. Ils peuvent interpeller, mais verset 37, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Esaïe, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ça, c'est un passage de la deuxième partie d'Esaïe 53, chapitre 53. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ça, c'est cité dans la Bible, l'Ancien Testament qui avait été traduit en grec à Alexandrie, la Septuaginte, ou la Septante en français. C'est ce que dit Esaïe. Ça, c'est un passage donc qu'on vient de lire dans Esaïe 6, la première partie d'Esaïe. C'est le même Esaïe qui le dit. C'est ce que dit Esaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il est question de Jésus. Le Seigneur qui est sur le trône, c'est le trône de Jésus. Jésus est assis à la droite du Père. Ils sont là et Esaïe voit Jésus. C'est intéressant parce que le nom d'Esaïe veut dire la même chose que le nom Jésus. Le nom Jésus, c'est une version grecque du mot Oséa ou Yeshua, qui veut dire Dieu sauve ou le salut de Dieu. Jésus, c'est le salut de Dieu. Il n'y a aucun autre nom donné parmi les cieux par lequel nous devons être sauvés. Et Esaïe, il portait lui aussi ce nom. Isaïe, c'est la même racine, c'est le salut de Dieu. Esaïe a vu Jésus sur le trône. Il y avait des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Des anges, des êtres particuliers. Il y a d'autres passages, notamment dans Ézéchiel, chapitre 1, On peut s'y tourner rapidement. Une autre vision de la gloire de Dieu. Seulement quelques années après le prophète Esaïe, il a une vision de Dieu et verset 5, il dit « Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun d'eux avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. » Et un peu plus loin, il explique « Quant à l'apparence, verset 10, de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. » L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbons ardents, c'était comme l'aspect de flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Leur feu répandait d'une clarté du feu, sortait des éclairs, etc. Il en reparle au chapitre 10, verset 1. « Je regardais, voici que vers l'étendue céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme un saphir, une autre merveilleuse description. » De la gloire de l'Éternel. Les anges, des êtres créés par Dieu pour le servir. Les séraphins et les chérubins, certains pensent qu'il y a une différence, là il semble qu'il y ait une différence du nombre des ailes. D'autres commentateurs pensent que c'est seulement une variété, ce sont tous des anges. Et le terme plus générique, c'est les chérubins. Aujourd'hui, on parle des enfants. J'ai pas eu de problème à la garderie, là, ce matin, à l'école du dimanche. Les enfants étaient des chérubins. C'est peut-être un terme un peu vieilli. Mais il est bon de savoir que le plus grand de ces chérubins, c'était autre que Lucifer, qui, lui, s'est rebellé contre Dieu pour avoir la gloire qui n'appartient qu'à Dieu, et qui a entraîné à sa suite d'autres anges qui sont maintenant les démons, ce qu'on appelle les démons, et qui n'ont de cesse que d'entraîner du monde à leur suite, parce que Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Mais si nous obstinons à suivre ces anges et Satan, nous allons nous y retrouver aussi. Ces séraphins, le mot veut dire ceux qui brûlent. Ils sont brûlants de zèle pour Dieu. Leur description de ces ailes, d'eux dont ils se couvrent la face parce qu'ils n'osent pas voir Dieu dans toute sa puissance, dans toute son étendue, dans toute sa gloire. Dans l'Exode, il est dit que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Ils se couvrent la face, ça ce sont des anges, mais même eux ne peuvent pas contempler carrément la face de Dieu. D'eux dont ils se couvrent les pieds, tout ce qui est humain, c'est comme une espèce de pudeur. Et puis d'eux dont ils se servent pour voler. Et eux, ils volaient, on va le voir, c'était au service de Dieu. Et nous aussi, nous devons avoir cette double aspect dans notre relation avec Dieu, c'est l'adoration avant le service. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Alors certains disent il y a la répétition de « Saint » parce que ça prouve ou c'est un élément qu'on peut utiliser pour dire qu'il y a vraiment la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alors c'est possible, mais en fait il est bon de savoir que la façon dont on intensifie une expression en hébreu, c'est en répétant les choses. Donc saint c'est bien, mais saint, saint, c'est encore mieux. Saint, 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 waouh. Et ils disent, toute la terre est pleine de sa gloire. Ils ne disent pas, toute la terre sera pleine de sa gloire. Et c'est intéressant parce que souvent nous, on ne voit pas la gloire de Dieu sur la terre. On voit les problèmes, on voit la corruption, on voit le péché. Et c'est vrai que ce péché est là, qu'un jour on en sera débarrassé. Mais la terre est pleine de la gloire de Dieu. Pour celui qui a les yeux préparés à la voir, celui qui la cherche. Je vois la gloire de Dieu en chacun de vous. Je vois la gloire de Dieu dans la beauté de la nature. Je vois la gloire de Dieu dans les lois de la physique. Je vois la beauté de Dieu dans les mathématiques, dans l'art, dans le fait que nous sommes sensibles à la beauté, à la justice. La terre est pleine de la gloire de Dieu. Alors le mot gloire, c'est un mot qu'on n'utilise pas tellement au travail ou à la fac. Et c'est un de ces mots un peu réservés au dimanche matin, au dimanche ou à l'église, ou à l'étude biblique. Le mot hébreu, c'est le mot kabod. Et quand on dit kabod, on a un peu les bras qui tombent, parce que l'idée, c'est quelque chose de puissant, de lourd. C'est du costaud, c'est du sérieux. La gloire de Dieu, c'est le fait que Dieu est imposant, que Dieu est réel, que Dieu est majestueux. Ce qu'il dit, ça doit compter parce qu'il est, ça pèse. C'est pas pesant dans un sens négatif, c'est au contraire pesant dans un sens de réalité. C'est pas du top, c'est du costaud. C'est pas du contreplaqué, c'est de l'or massif. C'est cette idée de Dieu, c'est quelque chose sur lequel on peut fonder sa vie, c'est quelque chose qui peut être la source de tous nos aspirations, sans problème. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et il chante ça, il le crie, à tel point que les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Il y a des fois où quand on chante, on ne ferait même pas trembler un bout de papier qu'on aurait devant soi. Peut-être ce serait un bon test pour le groupe de louanges de demander à chacun d'avoir un petit Kleenex devant sa bouche pour voir si on arrive à faire trembler le Kleenex en chantant. Je ne vous demande pas de faire trembler les poteaux de l'église, ça serait dangereux. Mais quand on réalise qui est Dieu, on n'a pas honte de chanter, même si on chante faux. Et je sais que parmi nous, il y en a qui chantent juste, d'autres qui chantent faux, peu importe. Chantez de tout votre cœur, parce que Dieu le mérite. Et ça fait du bien de chanter la gloire de Dieu. Parce que, pourquoi ça fait du bien ? Parce qu'en fait, on a été créé pour son bon plaisir, on a été créé pour le louer. Et quand quelque chose fait ce pourquoi elle a été créée, cette chose marche bien, cette chose fonctionne. Vous avez été créé pour adorer Dieu. Quand vous adorez les hommes, quand vous adorez les choses, quand vous adorez les créatures au lieu du Créateur, ça ne va pas marcher, entre guillemets, ça ne va pas coller, ça ne va pas vous satisfaire. Et puis la maison se remplit de fumée. Ça, c'est un temple de Dieu dans le ciel. La Bible nous explique que tous l'Ancien Testament, les instructions qui ont été données, le temple terrestre qui a été construit, le tabernacle, c'est qu'une image des choses à venir, une ombre des choses à venir. Là, Ésaïe a le privilège de voir le temple où Dieu siège, le trône de Dieu, la salle du trône. Et la maison est remplie de fumée. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas, quand est-ce qu'on a eu une dernière éclipse de soleil? Il y en a qui se souviennent d'avoir regardé une éclipse de soleil lorsque la Terre passe lorsque la Lune passe entre nous et le soleil, il y a la lumière diminue en plein jour. Et si vous voulez voir ce qui se passe, on vous conseille de prendre un verre noirci à la fumée. Parce que si vous regardez, par exemple avec un télescope ou des jumelles, vous allez vous griller la rétine. Ça va faire zip, comme un œuf frit. Et vous allez être aveugle. Et de la même façon, la Bible dit que nous ne pouvons pas, des yeux humains ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute son intégrité, dans tout son ensemble, on n'est pas capable. Dieu est trop grand. Et là, c'est comme si cette fumée qui rappelle la fumée aussi qui dirigeait les Israélites lors de la traversée du désert, la maison est remplie de fumée. Ça, c'est ce que voit Ésaïe. Et lorsqu'il voit ça, il dit « Malheur à moi ». Vous vous souvenez, on a étudié dans les versets 5 avec ce chant de la vigne où Dieu racontait avoir planté cette belle vigne en parlant de son peuple, qu'il avait tout fait et qu'en fait ils lui ont donné des fruits infects. Et puis il s'engageait dans une série de malheurs, de malédictions. Malheur pour ceux qui ont de la convoitise, malheur à ceux qui s'adonnent à l'alcoolisme, à l'hédonisme, malheur à ceux qui sont incrédules, malheur à ceux qui pêchent par orgueil, malheur encore une fois à ceux qui ont des mauvais, qui sont des chefs indignes. Et il malheurait tout le monde, il maudissait tout le monde. Malheur, malheur, malheur. Mais là il voit Dieu et d'un seul coup il se dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et il se dit « Je suis perdu. » Et ça, c'est un cri que tous les hommes qui se sont approchés de Dieu, tous ceux qui ont vu Dieu, plus ou moins, que ce soit Job, Daniel, Jean, Pierre. C'est ce sentiment que, devant la sainteté de Dieu, notre péché nous condamne complètement. On n'est pas capable de se tenir en présence de la sainteté de Dieu. Et pourtant, Ésaïe, c'était quelqu'un de bien, on dirait. C'était un prophète, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui Dieu a choisi pour, on va y arriver, pour annoncer sa parole, pour annoncer des prophéties. Et il se sent complètement indigne. Est-ce que nous nous sentons indignes devant la présence de Dieu? Je vais faire une confession. Chaque fois que je m'approche ici pour annoncer la parole de Dieu, je demande pardon à Dieu, je dis « Dieu, je suis indigne de partager ta parole. » La parole de Dieu est pure, elle est parfaite. Qui suis-je pour oser la prononcer et même la commenter? Mes lèvres sont impures. Les lèvres qui peuvent bénir, souvent maudissent, disent du mal, font du mal. Je peux dire des paroles blessantes à ceux que j'aime le plus, à ceux qui m'aiment. Mes lèvres sont impures. Et c'est pas seulement les lèvres, il dit pas seulement mon seul péché, c'est ce que je dis, non, c'est une révélation de tout mon être. Je pêche de tous les... Je suis capable de pécher par tous mes membres et par toutes mes pensées. Il associe aussi le peuple. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, mais je suis impur moi aussi, mes lèvres sont impures. Est-ce que nous avons le sentiment que nous sommes indignes de l'amour de Dieu? Nous vivons au milieu de gens qui se moquent de Dieu, qui l'ignorent, qui disent que c'est de la superstition, qui disent que c'est arriéré. C'est les mêmes personnes qui font que dans chaque journal en France, sur chaque site internet de nouvelles, il y a toujours un petit horoscope disponible. Nous vivons au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. La profanité, la grossièreté, les programmes de télé, c'est comme des égouts des fois, ce qui est montré, ce qui est... Et nous laissons faire, nous marchons avec ça. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Les séraphins, ce sont des anges. En plus, ceux-là, ce sont les brûlants. Mais il doit quand même prendre une pincette pour prendre cette braise, ce charbon ardent, et le mettre sur les lèvres du prophète. Et on pourrait penser que là, après que on lui ait touché les lèvres, il y a un grand cri. « Aïe ! » dis-je, de douleur, je me tournais. Non, ce qui rapporte, c'est que ta faute est enlevée, ton péché est expié. La douleur physique que Ésaïe a ressentie à coup sûr, ne serait-ce qu'un instant, probablement longtemps, il n'en parle même pas. Parce que Dieu l'a pardonné. Dieu lui a dit, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Alors on dit, mais on peut utiliser des charbons, on n'a pas besoin de venir à Jésus. Non, là il était en présence de Jésus. Et les anges ne faisaient que transmettre ce pardon. Il y a un autel des sacrifices. On pense que c'est soit de l'autel des parfums, où il y avait des braises qui brûlaient des aromates, des plantes odorifères odorantes, ou bien que ça venait de l'autel des sacrifices. Et Dieu merci, il y a un autel dans la salle du trône. Un sacrifice peut être ouvert, peut être fait pour nous permettre de nous tenir là. Ce sacrifice, il a été fait une fois pour toutes. Mais là, pour Ésaïe, c'était au futur. Voilà ce que Ésaïe a vu. Voilà, il a regardé en haut, il a vu Dieu, il a regardé vers lui, il a vu son péché. Maintenant, il va voir vers l'extérieur, mais d'abord, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur ». Après avoir vu, maintenant, Ésaïe va entendre la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» C'est l'Éternel des armées, c'est-à-dire l'Éternel qui a toute puissance militaire, physique, matérielle, spirituelle, qui pourrait ordonner à chacun des créatures qu'il a créées, va faire ceci, va faire cela. Et pourtant, Dieu cherche des volontaires. Si vous attendez que Dieu vous force à le servir, vous pouvez attendre longtemps. Dieu veut des gens qui ont le désir de le servir. Dieu veut des gens qui comprennent qui il est, comment il les aime et qui veulent répondre par l'amour et le service. Et donc, Ésaïe, quand il entend le Seigneur très saint, il sait qu'il a été purifié par cette braise sur ses lèvres. Il dit « Moi, moi, moi !» Il y a quelqu'un qui veut manger la pizza ?« Moi, moi, moi !» Il y a quelqu'un qui veut servir le Seigneur ? Il y a quelqu'un qui veut s'occuper des enfants ?« Moi, moi, moi !» Ésaïe brûle de répondre au Seigneur. Et encore une fois, Dieu nous appelle tous à le servir. N'ayez pas à attendre un appel spécial. Il peut vous confirmer cet appel, mais il nous appelle tous à le servir. Après, c'est comment, où et quand. Mais il cherche des cœurs qui veulent le servir. Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Et peut-être que dans son cœur, il se dit, « Ah, c'est le Seigneur qui m'envoie, je vais avoir un ministère formidable. Ça va bouger, les choses vont bouger en France, les choses vont bouger en Europe, les choses vont bouger en Israël. Dieu m'envoie. » J'ai dit, « Moi, 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 et il m'envoie. » Waouh, yes! Yes, we can. Les Français disent yes, weekend, surtout au mois de mai. Me voici, envoie-moi. Et le Seigneur lui dit vers quoi il l'envoie. Je vais t'envoyer, tu vas prêcher et ils ne vont rien recevoir. Tu ne vas pas avoir une seule personne qui va se convertir. Leur cœur va être endurci par ce que tu vas annoncer. Ésaïe doit se dire, attends, zut, j'ai dit moi, moi, moi. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux de peur qu'il ne voit et qu'il ne se convertisse. Mais attends Seigneur, je croyais qu'on était envoyé pour que les gens viennent à toi. Alors il ose une autre question, verset 11. ça va durer combien de temps, Seigneur? Est-ce qu'il y a un moment où, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout soit détruit, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains, il fait la prophétie de l'exil de son peuple, de la dévastation de Juda. On verra dans le chapitre 7 des précisions au niveau de comment ça va se passer et comment ça s'est passé. Est-ce que vous seriez prêt, comme Ésaïe, à partir si le Seigneur dit « Je veux que tu sois pasteur, je veux que tu sois missionnaire, je veux que tu sois évangéliste » Mais il n'y en a pas un seul qui va répondre. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui disent « Mais ça, c'est moi ». On est au GBU, c'est pas la majorité des étudiants qui répondent. Les étudiants qui répondent, c'était déjà des gens qui connaissaient le Seigneur. Est-ce qu'on continue? Oui, parce que le Seigneur vous a appelé. Le Seigneur a dit, allez-y, soyez là. Il y en a qui ont un ministère difficile auprès des immigrés, du monde arabe. Ça peut être très décourageant. Mais est-ce que vous êtes dans le ministère parce que vous voulez des résultats ou est-ce que vous êtes dans le ministère parce que Dieu vous a appelé à le servir dans cette capacité? Et ça fait toute la différence. Si vous êtes dans le ministère, il faut d'abord que vous vous sentiez appelé. Parce que des fois, on peut être dans le ministère parce qu'on trouve que ce serait bien de parler une fois tous les dimanches et puis le reste de la semaine, on n'a plus rien à faire. Les gens sont sympas, on est considéré, au moins par les gens qui sont chrétiens, peut-être, certains. Mais je dis toujours, ne venez pas à Nice parce que vous aimez le soleil pour nous servir, parce que vous sentez que l'ambiance est sympa, vous aimez bien l'histoire du café. Je dis, ça ne va pas vous soutenir quand les choses vont être difficiles. Les choses sont toujours difficiles. Même dans les ministères les plus fructueux, il y a des périodes de difficulté. Même les méga-ministères. On se dit, ah, si seulement j'avais une église de la taille de Rick Warren, Pasteur Chuck, avec la taille viennent la dimension des problèmes, viennent la complexité des relations humaines. Si vous pensez que c'est difficile quand on est 60, quand on est 100, imaginez quand il y a 25 000 personnes dans l'église et qu'il faut décider sur la couleur de la moquette. 25 000 avis, l'église qui se divise. Il est appelé. Il regrette peut-être, la parole ne le dit pas, mais il... Alors la chose qui est bizarre, c'est cette idée qui est reprise dans le Nouveau Testament, dans plusieurs, à six reprises au moins, il est question de cette citation du prophète Ésaïe que, en fait... Les paroles qui vont être annoncées vont fermer le cœur des gens, vont les endurcir. Et on peut dire, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu... Je croyais que tu étais un Dieu d'amour qui voulait toucher tous les hommes. En fait, le prophète, son travail, c'est de voir le futur. Dieu voit le futur, il le révèle au prophète. C'est aussi de prédire le futur, mais c'est aussi de contredire le présent. Notez ça dans vos Bibles. Le prophète, c'est pas seulement prédire le futur, c'est aussi contredire le présent. C'est de se mettre devant les gens qui vivent à votre époque et de leur dire que ce qu'ils font n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est d'être en contradiction, de reprendre les gens et de dire... Ça aussi, c'est être un prophète. C'est dans le sens là que, par exemple, Billy Graham est un prophète. Il n'a pas écrit de nouveaux livres de la Bible. Il n'y a plus de prophètes au sens où leur parole est comparable à la parole de Dieu. On a reçu toute la parole de Dieu, mais il peut y avoir des prophètes dans le sens où ils sont habités de l'Esprit de Dieu pour confronter la société dans laquelle ils vivent. Et c'est ce que le ministère auquel Ésaïe est appelé, et cette idée d'annoncer la parole et de voir les gens rejeter la parole, c'est comme un peu une façon de s'assurer d'une dernière chance. Ils se sont rebellés contre Dieu, ils n'ont pas écouté le message de Dieu qu'on trouve dans la création, qu'on trouve dans nos consciences. Avant de les condamner, Dieu va leur donner une autre occasion. Dieu est un Dieu juste. Ne pensez pas que quand il fait ça, il est injuste, il veut les perdre. Non, son cœur, c'est de sauver, de voir tous les hommes venir à la repentance. Mais la même parole qui va ouvrir le cœur des uns va fermer pour toujours le cœur des autres. Et ça, c'est une chose terrible. Mais il y a toujours, dans le message de Dieu, il y a toujours l'espoir, l'espérance. Et ce message, il se trouve à la fin lorsqu'il parle que malgré la dévastation, il restera un reste, un dixième des habitants. Et de cette souche, comme un arbre, une forêt qui a été coupée par des bûcherons, de cette souche va repartir une sainte descendance. Il y a de l'espoir pour le peuple d'Israël. Dieu n'en a pas fini avec le peuple d'Israël. C'est très clair dans tout le reste de la Bible. Ceux qui pensent que l'Église a remplacé Israël et qui se permettent de l'antisémitisme en disant que Israël a été déicide, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas étudié la Bible, ils n'ont rien compris à la Bible. Dieu ne revient pas sur ses promesses, elles sont irrévocables. Et on verra dans le reste de la prophétie d'Ésaïe, on en parlera mercredi soir, Dieu va bénir et sauver son peuple d'Israël, c'est pas fini. Alors bien sûr, lorsqu'il y a une tendance à la polarisation politique en ce moment, si on dit ces choses-là, on pense qu'on est pro-Israël, contre les Arabes. Dieu a un plan qui se déroule. Ceux qui attendent la paix sur terre en Israël n'ont rien compris non plus à la parole de Dieu. La paix ne reviendra pas tant que le prince de la paix ne reviendra pas. Quand on voit les choses se précipiter, on se dit que le temps est proche. Il est plus proche d'une heure depuis qu'on a commencé ce sermon, et on va s'arrêter là. Dieu est majestueux. Dieu est saint. Lorsqu'il est dit... il entendit la voix qui disait « Qui enverrai-je ? » En fait, c'est au pluriel. Et là, on peut parler, c'est la Trinité qui parle. Dieu est trois fois saint. Dieu est totalement saint. Et nous sommes pécheurs. Si nous enlevons les idoles de notre vie, les osias, alors nous pouvons voir le Seigneur. Et lorsque nous le voyons, nous voyons notre péché. Et là, lorsque nous voyons notre péché, nous venons à lui pour être sauvés. Et là, il nous envoie. Et le Seigneur en appelle beaucoup parmi nous, je sais. Les temps sont les temps de la fin. Il a besoin de personnes qui vont annoncer l'Évangile, pas seulement en étant à temps plein, mais autour de vous, parlez. Hier soir, nous avons prié, nous étions une vingtaine, une trentaine, et je frémissais à l'idée de penser que si Dieu prend vraiment possession de chacun de nous, ça peut bouger. Peut-être que certains d'entre nous seront appelés à ces ministères ingrats, où c'est simplement un ministère où on annonce une condamnation parce que les gens ne reçoivent pas la parole, mais je suis persuadé que Dieu a encore un peuple à sauver dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous?